Voilà, donc merci pour cette introduction. Je suis très honoré effectivement de pouvoir faire une présentation ici sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si le son est... Est-ce que c'est bon comme ça si je... Parfait. Voilà, donc, oui, comme a dit Françoise, je travaille au Litis et effectivement, ça fait depuis une quinzaine d'années que l'on travaille au sein, avec une équipe donc, d'une quinzaine, vingtaine d'enseignants-chercheurs autour de l'intelligence artificielle et notamment du machine learning. Donc, l'objectif aujourd'hui pour nous, ce sera... De faire un exposé un peu vulgarisateur autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre effectivement à toutes les questions ou les mythes que les gens éventuellement se posent. Donc voilà, donc ce dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, c'est cela. Donc je vais revenir un peu brièvement sur l'histoire et le principe global de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et pourquoi et comment on en est là aujourd'hui. Ensuite, je vais discuter un peu des principes et des mécanismes de comment on fait pour faire en sorte qu'une machine soit capable d'intelligence, entre guillemets, ou qu'elle soit capable d'apprendre. Et sur la fin, je vais revenir un peu sur les questions sociétales, sur l'impact de l'intelligence artificielle et les questions un peu sociétales qui sont sous-jacentes. Voilà. Donc voilà. Pour commencer, donc je vais revenir un peu sur la notion de intelligence artificielle. En fait, c'est quelque chose d'assez vague. Et en fait, ce terme, il date un peu des années 50, où donc c'était vraiment les prémices de l'informatique. À l'époque, les ordinateurs étaient très volumineux, rentraient difficilement dans les pièces. Mais il y avait déjà des informaticiens qui se posaient la question de comment faire en sorte qu'une machine soit pensante, donc notamment McCarthy et Minsky. Donc, ils ont organisé en fait une conférence autour de la notion de machine pensante. Et pendant 2 mois, ils ont réfléchi. Et en fait, au bout de ces 2 mois-là, donc vraiment aux prémices de l'informatique, les questions qui ont émergé à la suite des discussions entre chercheurs, c'était comment stimuler la pensée, le langage pour une machine à travers de règles. Il y avait des questions aussi autour de comment faire en sorte qu'une machine soit capable d'apprendre et comment faire en sorte qu'une machine soit créative. Et en fait, ce que McCarthy et Minsky appellent comme intelligence artificielle tourne autour de ces questions-là. Donc en fait, ils vont dire, OK, ben on va appeler l'intelligence artificielle tout le domaine scientifique qui consiste à résoudre, qui attaque cette problématique de recherche autour des machines pensantes. Voilà. C'est encore une notion relativement vague. La notion d'intelligence est un peu compliquée à définir. Donc pour nous, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à apprendre, à comprendre des choses et à raisonner. Mais voilà, et plus précisément, en fait, ce qu'on va appeler une intelligence artificielle, c'est le développement de programmes informatiques qui soient capables en fait de réaliser des tâches que l'on suppose pour l'instant réalisables par des êtres humains ou qui nécessitent donc une intelligence humaine. Donc ça peut être des choses autour de la perception, donc la vision. On regarde une image et on est capable d'interpréter ce qu'il y a dans cette image. Ça peut être sur la capacité de raisonner. Ça peut être sur les capacités linguistiques, donc c'est quelque chose de très difficile. Hein. C'est capable de traduire un texte en anglais en un texte en français ou l'inverse. Même canaliser une phrase, nom, verbe, sujet, attribut, c'est quelque chose de super difficile. Moi, j'ai une fille de 10 ans et effectivement, c'est difficile de lui inculquer cette compréhension-là. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là, pour l'instant, que l'on va appeler comme des tâches reliées à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre durant la présentation. Donc, dans ce contexte, en fait, on peut distinguer aussi deux choses, donc deux notions d'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Alors, l'intelligence artificielle faible, en fait, c'est une machine qui va être capable de résoudre une tâche spécifique très bien. Mais elle ne sait résoudre que cette tâche-là. Donc, par exemple, ici, on a une machine qui est capable d'analyser ce qu'il y a dans une image. Donc, il y a un chien, il y a une personne, il y a une chaise, et qui est capable aussi de voir, de distinguer qu'il y a une autre chaise ici, bien qu'elle soit partiellement visible. Une intelligence artificielle forte ou une intelligence artificielle générale, c'est une machine qui va être capable de percevoir des objets, de faire des raisonnements au même niveau que les capacités humaines, et en plus de résoudre différentes tâches. Donc, typiquement, une intelligence artificielle forte serait une machine qui soit capable de me conduire automatiquement d'ici au centre-ville de Rouen, ensuite répondre à mon courriel automatiquement, puis ensuite jouer à un jeu sur ordinateur. Voilà, donc quelque chose qui soit capable de résoudre plusieurs tâches. Actuellement, toutes les choses que l'on voit, les applications qui sont en train de se développer, traitent essentiellement de l'intelligence artificielle faible. Donc actuellement, on sait résoudre des tâches très bien, mais les machines, la machine ou le programme qui sait résoudre cette tâche-là ne sait faire que ça. Donc typiquement, ça peut être... Donc les applications que l'on a de l'intelligence artificielle actuellement, en fait, il y en a qui datent d'il y a une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. Hein. On a des machines qui sont capables de lire automatiquement les montants qui sont sur des chèques. Donc ça date des années 90. En fait, il suffit de lire les caractères, les chiffres qui sont dans le coin en haut à gauche. Donc c'est des techniques déjà d'intelligence artificielle qui existaient et qui permettaient de résoudre ces problèmes-là. Ou alors des systèmes qui filtrent vos courriels, donc en spam ou pas spam. C'est des choses qui datent il y a bientôt une vingtaine d'années. Et les machines font ça très bien avec des techniques d'intelligence artificielle. Bon, maintenant, il y a des choses beaucoup plus complexes, comme la reconnaissance de la parole. Donc, si vous avez des assistants personnels, vous avez des smartphones un peu évolués, vous avez un système qui reconnaît très bien la parole et qui vous permet d'interagir avec votre smartphone. Donc il y a aussi des choses liées au système de recommandation. Donc si vous êtes adepte des sites marchands sur Internet, vous avez probablement des systèmes qui vous proposent des objets ou des choses que vous pourrez aimer sachant ce que vous avez déjà acheté. Et voilà, donc on a aussi les véhicules autonomes, donc c'est quelque chose qui commence à exister déjà et qui sur Rouen va exister bientôt. En tout cas, il y a une navette qui va exister entre le Zénith et les Cigelec, je pense qu'il va faire la navette pour relier le T4 et la station de métro Technopôle. Donc voilà, donc des choses qui commencent vraiment à se mettre en place ou des systèmes de type de traduction automatique. Donc en fait, voilà, on a déjà des choses des applications en intelligence artificielle qui existent, et c'est des machines qui savent bien faire ce qu'on leur demande de faire et pas plus, pas moins. Voilà. Et donc la petite histoire, c'est que donc les notions de terme intelligence artificielle existe depuis les années 50. Donc, entre les années 50 et les années 80, en fait, les techniques qui existaient donc pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle ne marchaient pas trop, et du coup, en fait, on n'a pas vraiment d'application ni d'avancée majeure dans ce contexte-là. Et en fait, c'est simplement à partir des années 80 et le développement de ce qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage machine, donc que je vais expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, que des applications qui ont un regain d'intérêt autour de l'intelligence artificielle. Donc typiquement les programmes informatiques, les algorithmes qui vous permettent de trier automatiquement vos courriers électroniques en spam ou pas spam sont des méthodes de machine learning. Et au-delà, ce dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, c'est les algorithmes dits de deep learning, qui sont encore un cas particulier d'une méthode de machine learning. Donc voilà, si on hiérarchise, il y a la notion d'intelligence artificielle, donc, et pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle, il y a plusieurs techniques. Actuellement, celle qui marche le mieux, c'est celle qui est basée sur l'apprentissage machine, donc le machine learning. Et dans le cadre du machine learning, les techniques qui marchent le mieux pour faire en sorte qu'une machine soit capable d'apprendre, ce sont des techniques de type deep learning. Donc voilà, donc je vais revenir sur les deux derniers points maintenant, donc sur les techniques pour comment faire en sorte qu'une machine soit capable d'apprendre, et ensuite revenir un peu sur la notion de deep learning. Voilà, donc comment on a fait pour faire en sorte que les machines soient capables d'apprendre ? Donc, dans les années 70-80, en fait, ce qu'on faisait, c'est, pour faire en sorte qu'une machine soit capable d'apprendre, c'est qu'on allait voir un expert d'un domaine, par exemple, pour, si on voulait reconnaître une chaise, par exemple, on va aller voir un expert des chaises, et on lui dit, comment tu fais pour reconnaître une chaise ? Donc, le monsieur, la personne vous dit, une chaise, ça a typiquement 4 pieds, un dossier, et ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait ces connaissances-là dans la machine, et dès que la machine voyait quelque chose avec 4 pieds et un dossier, elle dit, c'est une chaise. En fait, ces choses-là ne marchaient pas très bien parce qu'en fait, on était obligé de mettre explicitement les règles du principe de reconnaissance dans l'intérieur de la machine. Et dès que l'objet que l'on voyait déviait un peu des règles qu'on lui avait inculquées, eh bien, il n'était plus capable de connaître. Donc, on a pris une autre voie qui est celle d'une machine qui soit capable d'apprendre, non pas à partir de règles qu'on lui inculte, mais à partir de l'observation de données. Donc typiquement, par exemple ici, si on a des chiffres manuscrits, on peut essayer, on va donner à la machine l'ensemble de ces chiffres-là, et on distingue que pour nous, c'est que les 1 sont des barres verticales, certains qui sont très verticales, d'autres qui sont un peu de biais. Il y a des 1 avec une petite barre sur le côté, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, bref, ainsi de suite. Donc on va pas le principe de l'apprentissage machine du machine learning, c'est qu'on ne va pas inculquer des règles explicites à la machine, on va lui donner des données et elle va essayer d'extraire à partir de ces données-là des informations pertinentes. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on apprend aussi à nos enfants les animaux. Voilà. Donc typiquement, donc le principe sous-jacent, c'est on va présenter, donc si on veut apprendre à une machine à reconnaître des animaux, l'image d'un animal. Donc, on va présenter à une machine un animal, donc par exemple l'image d'un coq, et on va lui dire ça c'est un coq. On va lui prêter une autre image, une poule, on va lui dire ça c'est une poule. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à faire que la machine soit capable d'apprendre la relation qui existe entre cette image-là et la notion de poule ou de coq ou de cochon ou de tortue. Okay. Donc c'est un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on fait, à comment on apprend à nos enfants. Donc quand on leur montre effectivement ces genres d'images-là, on dit voilà, ça c'est un coq, ça c'est un cochon. Donc on ne sait pas vraiment comment qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'elle soit capable qu'elle soit capable de reconnaître l'objet, mais il y a des choses qui font que l'apprentissage se passe. Donc on fait exactement de la même manière pour les machines. Donc ça s'appelle de l'apprentissage supervisé, dans le sens où on va donner une image à une machine et on va lui dire ça, cette image-là, ça correspond à cette chose-là. Donc on ne lui dit pas un chat, c'est cet animal avec des oreilles pointues et des moustaches et une queue. On va juste montrer le chat et la machine va extraire ces informations-là. Donc, comment on fait pour faire ça ? C'est que donc, ce qui est important, c'est la notion de relation entre l'image que l'on montre à la machine et le type d'objet que l'on veut lui faire apprendre. Donc, en fait, il existe. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de relativement simple dans le principe, c'est qu'on va lui présenter une image la machine, on le définit une relation. Donc, au début, la machine ne sait pas ce que c'est que l'image qu'on lui présente. Donc, on lui dit, voilà ce que tu as. Oups. J'ai plus. On lui présente cette image-là. On lui demande, qu'est-ce que c'est? Au début, il ne sait pas trop. Il dit, c'est un coq. Donc, ce n'est pas la bonne réponse, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, la relation que l'on définit, elle est ajustable. Il y a plein de petits boutons que l'on peut ajuster. Donc, on va tourner un tout petit peu ces petits boutons-là pour faire en sorte que la machine, la prochaine fois, soit capable de dire, si je représente la même image, de dire c'est un cochon. OK? Donc, après, je lui présente une tortue. Elle va me dire oui ou non, c'est une tortue. Si c'est une tortue, je ne fais pas grand-chose. Si elle me dit que ce n'est pas une tortue, je réajuste les petits boutons. Et on fait ça sur tout un tas d'exemples. Donc, on lui présente le coq, le truc, mais du coup, on lui présente vraiment énormément d'images, donc des millions, typiquement, pour qu'elle soit capable, à la fin, de reconnaître les animaux de la ferme. Donc voilà. Déjà, à la différence d'un enfant, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu besoin de montrer 1000 images de tortue à ma fille pour qu'elle soit capable de reconnaître une tortue. Là, la machine, il faut quand même vraiment lui répéter beaucoup de fois, ça c'est une tortue, ça c'est un cochon, ça c'est une voiture, ça c'est pas une voiture, ça c'est un piéton, avant qu'elle soit capable de reconnaître au moins des images dans les objets. Mais maintenant, ça marche très bien. Donc, la notion de relation ici que je vous ai définie entre les données et les sorties, en fait, c'est une notion, quelque chose qui est une approximation vraiment grossière d'un neurone biologique. Donc, c'est un modèle qui date des années 50 aussi et qui finalement marche très bien, que l'on utilise 60 ans plus tard. C'est vraiment une approximation très grossière d'un neurone biologique, en fait, qui simule le fait qu'on a des informations électriques qui arrivent des entrées dans les dendrites. Donc ça, c'est ce qui représente, en fait, les pixels de l'image. On a des poids, donc associés à chaque pixel de l'image, par exemple, qui vont jouer le rôle des synapses avec leur rôle d'inhibition et d'excitation. Et on a un potentiel, l'équivalent d'un potentiel d'action et la sortie du réseau. Donc ça, c'est juste un neurobiologique. Et là, vous avez l'approximation très grossière. Et quand on parle de réseau de neurones, en fait, c'est toute une association de beaucoup de ces réseaux-là. Et ce qu'on ajuste, donc, un réseau de neurones artificiels, comme on entend parler dans les médias, c'est cette structure-là que l'on répète un certain nombre de fois, donc beaucoup de fois, pour avoir une grosse machinerie qui, lorsque lui présente une entrée ici, donc l'image qu'on veut qu'elle reconnaisse, soit capable de me dire si c'est une voiture, un cochon, une vache, ou ainsi de suite. Et les poids, donc les actions inhibitrices, les poids relatifs aux synapses, c'est les paramètres, les petits boutons que l'on va pouvoir ajuster pour que la machine soit capable de reconnaître les choses. Voilà, donc ça c'est le principe du machine learning. La notion de deep learning arrive derrière tout ça. En fait, c'est une méthode particulière de machine learning où, au lieu d'avoir quelque chose de relativement simple ici, où on a que trois couches de réseau, en fait, on a vraiment un plus grand nombre, donc une dizaine, voire une centaine, même actuellement des milliers. Donc, l'avantage de cette approche-là de deep learning, c'est que avant, en fait, pour reconnaître une image d'un objet, donc un chien ici par exemple, en fait, on utilisait de la connaissance experte, c'est-à-dire qu'il y avait un ingénieur qui disait, si je veux reconnaître un chien, je vais essayer de calculer la moyenne des niveaux de pixels aussi, voilà. Il y avait quand même quelque chose qui se faisait manuellement, que l'on donnait ensuite à une méthode de machine learning pour que ça soit capable de reconnaître. Alors que maintenant, avec cette approche profonde de plusieurs couches, en fait, la machine est capable d'extraire automatiquement, quelles sont les informations qui sont pertinentes pour lui, pour reconnaître un objet. Et de manière intéressante, en fait, ce que l'on constate, dans les différentes couches de ces réseaux-là, c'est qu'on a quelque chose qui est similaire à ce qui se passe dans le cortex visuel des primates. C'est-à-dire que les premières couches de votre... Donc, si vous voulez, si, par exemple, votre problème est de reconnaître des visages. Donc, vous donnez à l'entrée de votre machine un visage ou pas un visage, et vous ajustez tous les poids de votre réseau pour essayer de reconnaître ce visage-là. Une fois que vous avez présenté à votre machine des millions de visages, et qu'elle soit capable de reconnaître les visages, on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre machine. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que au début, ce qu'elle extrait comme information, c'est des choses qui sont relatives à des petites droites, des traits un peu... donc des contours, des images. Et à la couche d'après, on obtient des informations un peu plus de haut niveau. Donc choses qui sont relatives à sa capacité à détecter des bouches, des nez, et ainsi de suite. Et à un plus haut niveau, on a des choses qui ressemblent à des visages, donc la capacité à détecter des visages dans les images. Et en fait, ce principe-là, on a des informations graduelles qui émergent du phénomène d'apprentissage, et ces choses-là sont vraiment similaires aussi à ce qui se passe dans le cortex visuel des primates. Donc au tout début, ce qu'extrait le cortex visuel, c'est des primitives relativement simples, et au fur et à mesure, on a des choses de plus en plus complexes. Donc c'est ça vraiment qui a fait que les choses marchent bien, que la machine a été capable de résoudre des tâches, en tout cas de vision. Donc voilà. Voilà le principe général du deep learning et du machine learning. Donc, ce qu'on peut se poser aussi comme question, c'est que pourquoi, en fait, ce succès de l'intelligence artificielle se passe actuellement, maintenant, en 2018, ou voire moins dans les années 2010. Parce qu'en fait, tout ce dont je vous ai parlé, les techniques mathématiques dont je vous ai parlé, c'est des choses qui existaient déjà dans les années 80. Donc il a fallu en gros une trentaine d'années avant que ces concepts mathématiques et informatiques soient utilisables en pratique. Et en fait, ce qui manquait à l'époque, c'était des machines aussi puissantes que maintenant. Donc à l'époque, hein, mon téléphone portable ici est largement beaucoup plus puissant que les machines que l'on avait à l'époque. Et aussi, on a des données que l'on peut, on a plein de données, donc grâce à Internet, on peut accéder à plein de données facilement. Et en fait, ce succès des méthodes de machine learning et ce boom de l'intelligence artificielle, en fait, est dû à cette conjonction de facteurs, en fait, qui est la puissance de calcul des machines et l'Internet, en fait. Et le projet vraiment initial qui a permis de développer tout ça, c'est un projet qui vient de l'université de Stanford en Californie. En fait, c'est un projet ImageNet. En fait, donc voilà, les chercheurs voulaient mettre au point une machine qui soit capable de reconnaître des objets dans les images. Et le constat, c'est que on n'avait pas assez d'images supervisées avec le type de choses que contient l'image pour pouvoir faire apprendre à l'imagine. Donc, ils ont mis en place un projet qui a collecté plusieurs millions d'images avec 22 000 types d'objets dans les images. Donc, et 50 000, en gros, 50 000 personnes ont participé à dire, dans cette image-là, il y a un chien. Et s'il y a un chien, mais en plus, il y a un berger allemand ou un chihuahua ou ainsi de suite. Et il y a 22 000 types. Et en fait, un projet pharaonique, avec 50 000 personnes et 160 pays. Et les responsables de ce projet-là ont mis toute cette information-là, très coûteuse à mettre en place, à la disposition de l'ensemble des chercheurs, et ont organisé une compétition annuelle autour de la reconnaissance d'objets dans les images pour une machine. Donc pour cette compétition-là, voilà, il y avait 1 million d'images, et il y a 1000 classes. Voilà. Et l'objectif donc de la machine, c'est de dire, dans cette image-là, il y a quelque chose. Donc il a le droit de dire cinq types d'objets, et éventuellement l'objectif c'est de faire en sorte que parmi les cinq choix, il y a la bonne. Donc voilà l'exemple d'image que l'on a. Donc donc pour moi ici il y a deux chiens, hein, et en fait c'est deux chiens de races différentes que la machine doit être capable de distinguer. Donc voilà, si j'ai bien appris ma leçon, il y a un Appenzeller et là un Interlocutor. Voilà, en tout cas, rien qu'en regardant les images, j'aurais été incapable, moi, de distinguer les deux races de chats. Donc voilà, c'est quand même une problématique assez difficile. Donc voilà, donc la machine a en gros 1 million d'images pour pouvoir apprendre à distinguer les objets qui sont à l'intérieur de ces images-là, et 200 000 images pour évaluer leur performance. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc dans les années 2010 et 2011, il y avait pas mal d'équipes en vision qui travaillaient sur des méthodes traditionnelles, donc qui essayaient de construire des choses un peu malines pour essayer d'être capable de reconnaître les objets, donc qui a arrivé à avoir des performances autour de 25% d'erreurs. Donc en gros, dans 25% des cas, la machine n'est pas capable de dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Et au fur et à mesure, donc, ce qui s'est passé, c'est en 2012, donc ce qu'on appelle l'année du boom de l'intelligence artificielle et deep learning, c'est que des méthodes de deep learning, ont en gros réduit de moitié l'erreur que la machine était capable de faire sur ces problèmes-là. Et depuis, donc, les performances n'ont cessé d'évoluer jusqu'à faire mieux que l'humain. Donc ici, c'est le trait rouge. Donc l'humain en fait fait en gros 5% d'erreurs et la machine actuellement tourne autour de 3% d'erreurs. Donc on est vraiment dans une intelligence artificielle faible, donc c'est dans le sens où elle est capable juste de reconnaître une image, mais elle le fait vraiment très bien, donc au-delà de la capacité humaine. Voilà, donc à partir de cette année-là, en fait, du coup, beaucoup de gens sont intéressés aux méthodes de deep learning. Donc typiquement, les applications récentes de deep learning, hein, on a quelque chose qui date de l'année dernière, c'est des applications en dermatologie. Donc donc la capacité à reconnaître des mélanomes malins ou bénins dans les images. Donc en gros, là, le principe est pareil que pour la compétition ImageNet. Donc on donne à la machine beaucoup d'images qui ont été déjà labellisées par des dermatologues. Donc les dermatologues ont dit ça c'est ce type de mélanome et ainsi de suite. Donc il y a 2000 types de mélanomes. Et donc on apprend à la machine à reconnaître ces mélanomes. Et donc les performances que l'on a actuellement, c'est des choses qui sont similaires aux meilleurs dermatologues en tout cas. Donc parmi 25. Ces types d'algorithmes aussi, on peut les utiliser, donc qui ont été réalisés très récemment pour détecter découvrir des exoplanètes. Donc en fait, on a appris à la machine à reconnaître ce qu'on appelle des transit light. En fait, quand une planète passe devant son soleil, en fait, la lumière est un peu atténuée. Donc, c'est atténué très faiblement, Et en fait, on est vraiment à la limite de ce qui est percevable par le télescope. Et en fait, on a appris à la machine à reconnaître ces petites déviations de luminosité. Et parmi les candidats potentiels que la machine a proposé à l'homme pour dire, ben là, il y a peut-être quelque chose qui est relatif à une planète qui passe devant le Soleil. Effectivement, il y a eu des nouvelles découvertes de planètes. Donc, notamment, on a découvert un huitième ou un neuvième planète dans un système solaire Kepler 90. Donc, ça, c'est grâce à des techniques de deep learning. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont relatives à de l'apprentissage supervisé. Donc, on apprend à la machine à partir de données, et les données, on leur associe de l'information qui sont fortes. Donc là, il y a une voiture, là, il y a un chien, ainsi de suite. Mais aussi, on peut apprendre à une machine à partir de données, sans qu'on lui donne vraiment une information beaucoup plus importante que ça. Donc, la machine, dans ce contexte-là, donc l'apprentissage non supervisé, on va lui dire, Voilà, voilà des données. Il y a des choses qui se ressemblent dans ces données. Dis-moi ce que c'est. Donc typiquement, si on donne ces images-là à la machine dans ce contexte-là, ce que la machine va vous dire, il y a un groupe relatif à des canards et il y a un groupe relatif à des choses qui ne sont pas des canards. Donc une souris et un lapin. Bon, il aurait pu également nous dire, on a des canards dans un groupe, on a une souris dans un autre groupe et il y a un troisième groupe qui est le groupe de lapins. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des données, construis-moi des groupes homogènes parmi ces données. Et donc, ces choses-là, si vous êtes adepte de l'achat en ligne, c'est des choses qui sont utilisées pas beaucoup pour les systèmes de recommandation, donc notamment n'importe quel site d'achat en ligne. Donc la machine apprend en fait à reconnaître votre profil en fonction des visites de votre navigation, l'historique de votre navigation sur des sites web, en fonction des likes que vous faites si vous êtes utilisateur des réseaux sociaux. Et à partir de l'ensemble de ces données-là, en fait, elle est capable de distinguer votre profil, donc savoir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Donc, il y a des fois, c'est effectivement effrayant, mais moi, personnellement, effectivement, par exemple des sites de streaming de musique et grâce à les conseils de la machine, en tout cas j'ai découvert des groupes très intéressants, mais de temps en temps je me suis dit waouh, comment il fait pour me connaître aussi bien. Et en fait, donc on a quand même vraiment des habitudes et les gens se ressemblent quand même suffisamment pour avoir créé des groupes homogènes en fait de personnes. Voilà. Donc, outre les systèmes de recommandations, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes à partir de l'apprentissage non supervisé. Donc, notamment des travaux de mes collègues donc du LITIS et du Centre Henri Becquerel, donc le Centre de cancérologie de Rouen, donc qui ont développé des techniques qui permettent de reconnaître automatiquement en fait des muscles dans des images médicales. Donc là, l'objectif, donc qui a été, donc c'est un projet qui a été primé par le prix Unicancer. Donc l'objectif, c'était d'essayer de distinguer les muscles en fait dans une image médicale. Et donc en fait, c'est super important de faire ça parce que ça permet de mesurer la perte musculaire lors des traitements. Donc et en fonction de cette perte musculaire, on peut faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que l'on peut spécifier exactement quelle est la dosimétrie qui va bien pour le traitement d'une patient. Et donc en fait pour faire ça, c'est que les techniques qui ont été utilisées, c'est des techniques d'apprentissage supervisé. Donc la machine est capable de reconnaître automatiquement le troisième vertèbre lombaire dans l'ensemble de scan, pardon. Et ensuite, elle est capable de distinguer automatiquement quelle est parmi, dans ces images-là, quels sont les muscles. Donc une fois qu'on a les muscles, du coup, on peut quantifier le volume de muscles et au fur et à mesure du traitement, en fait, on peut apprendre à évaluer comment évolue en fait cet ensemble de muscles. Donc, et une troisième famille de types d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc vous en avez probablement entendu parler dans les médias parce que c'est la technique qui a permis notamment à l'intelligence artificielle de jouer au Go. Donc on l'a entendu. Donc le principe est un peu différent des deux approches tout à l'heure. C'est que là, on a une machine qui observe, donc ce que j'appelle ici un agent, qui observe son environnement. Et en fait, il a un objectif. Cette machine a un objectif et il a le droit de faire des actions. Donc, si c'est un robot, il a le droit d'aller à gauche, il a le droit d'aller à droite, il a le droit d'avancer. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il faut qu'il choisisse une action qui lui permette d'atteindre son objectif. Et à partir du moment où il fait une action, donc son environnement va changer, donc l'état de l'environnement va changer. Et éventuellement, on lui donne une récompense. Donc c'est un peu comme quand on dresse un animal, par exemple. Donc si il fait la bonne action, on peut lui donner un poisson, si l'animal que vous essayez de dresser est un dauphin. Et donc voilà, donc le principe est relativement le même. Donc la machine au début ne sait pas quelle action elle doit faire, mais elle a un objectif. Donc elle peut choisir une action au hasard. Si c'est une mauvaise action, ben elle n'a pas de récompense. Si c'est une action qui lui permet d'atteindre son objectif, eh bien en fait il reçoit une récompense. Et il essaye. On fait tourner ça pendant longtemps, donc il essaye tout un tas d'actions, des centaines et des centaines et des milliers, des centaines de milliers de fois, et au final, il apprend à trouver la bonne séquence d'actions qui lui permet d'atteindre son objectif. Donc par exemple, ici, alors je ne sais pas si ça va marcher bien. Ok. Est déjà ouvert? Non. Bon, tant pis, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Donc c'est un bras robotisé qui doit faire le gardien de but. Donc il faut qu'il attrape la balle et qu'il faut qu'il empêche la balle d'arriver derrière lui. Donc au début, il a deux actions, aller à gauche et aller à droite, et tout ce qu'on lui dit, tiens, tu as une récompense si la balle ne va pas derrière toi. Donc au début, hein, ce qu'on peut voir, c'est que donc il essaie des actions au hasard et ça marche pas très bien. Et au fur et à mesure des essais, donc de temps en temps, par hasard, il arrive à réaliser une action qui lui donne une récompense, et du coup, il comprend que la bonne action à faire, c'est de suivre la balle rouge et de faire en sorte d'empêcher que cette balle rouge aille derrière lui. Donc là, au bout d'un certain nombre d'entraînements, bon, le bras robotisé suit la balle, mais pas suffisamment pour l'empêcher d'atteindre le but. Et après plusieurs minutes d'entraînement, donc d'essais erreurs, voilà, elle devient beaucoup plus apte à empêcher la balle de passer. Donc on voit aussi que, en fait, elle commence à suivre la balle du regard. Voilà, donc ça c'est un exemple de de principe d'apprentissage par renforcement. Excusez-moi. Tac. Alors du coup, contrôle L. Donc une des applications aussi, en tout cas des preuves de concept pour montrer que ces techniques marchaient bien, c'est que on a appris à une machine à jouer à des jeux ordinateur qui date des années 80, donc des jeux Atari, donc qui était relativement simple. Hein. Donc on a un joystick avec un bouton poussoir pour tirer et une manette qui va en haut, en bas, à gauche, à droite. Et tout ce qu'on lui montre, c'est l'écran. Et on lui dit, ça c'est ton score, il faut que tu le maximises. Et on lui donne juste l'image. Et en fait, la machine comprend que au fur et à mesure des essais, la machine comprend que quand elle tire et que si son tir dépasse, en fait, touche un des invadeurs ici en jaune, eh bien, elle marque des points, donc elle que sa récompense augmente. Donc, au fur et à mesure d'essais et erreurs, elle est capable de distinguer quelles sont les actions qui sont bonnes à faire au sens de la maximisation de sa récompense. Donc c'est ce principe-là qui a été utilisé, par exemple, pour... Et ici, donc là, sa récompense, c'est le score. Donc si elle fait une bonne action, son score augmente, et donc c'est là, C'est ce score-là qui constitue sa récompense. Donc son but, c'est de maximiser son score, en fait, dans ce cas. Non, pas, ça dépend de l'objectif. Donc là, par exemple, pour le Go, sa récompense finale, c'est d'avoir gagné la partie. Donc il faut qu'elle trouve des actions qui lui permettent de gagner la partie. Pour le bras robotisé, sa récompense, ça va être d'avoir empêché la balle de passer derrière le but. En fait, on lui donne des points, voilà, par exemple. Voilà, pour lui dire, on va lui dire, ça c'est bien pour toi. Et cette notion de bien pour toi, en fait, c'est une notion de points à accumuler pour une machine, quoi. Voilà. Donc on lui dit comment ? On met dans la machine, on le programme, on lui dit. Donc on lui disait, c'est programmé dans la machine que la bonne récompense. Enfin, si à la fin de l'action que tu as fait, par exemple ici, pour le bras robotisé, si à la fin de l'action la balle est derrière toi, bah, tu n'as pas de récompense. Par contre, si à la fin de l'action la balle reste devant toi, eh bien, tu as une récompense. Donc, on lui dit, ta récompense, elle a augmenté. On te donne 10 points parce que la balle est restée devant toi. Donc, pour le Go, pour le principe de Go, la récompense, c'est tout un tas de points une fois qu'il a gagné la partie. Ok, donc voilà. Donc, le principe, donc, si vous en avez entendu parler, donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de Go, mais l'idée du Go, c'est un plateau de jeu avec taille 19x19, et l'objectif, c'est. Avec les pierres blanches et les pierres noires, c'est essayer de délimiter des territoires, de contrôler des territoires. Donc la différence de l'échec, des jeux d'échecs ou jeux de dames, en fait, dans un jeu de Go, le nombre de positions possibles est vraiment très 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 grand. Donc on ne peut pas explorer l'ensemble des coups possibles pour pouvoir faire en sorte qu'une machine soit capable de jouer au Go. Et donc, ce qui a été développé, c'est... une machine qui soit capable de, étant donné une situation particulière, de dire celle-là, ce coup-là, c'est le coup que aurait probablement joué une personne. Donc ça, on lui apprend à partir d'un certain nombre de parties que l'homme a déjà jouées, que des joueurs professionnels ont jouées. Donc du coup, il est capable d'apprendre à partir d'une situation particulière, de dire bah, c'est ce coup-là qu'il faudrait jouer. Et une fois qu'on a un certain nombre de coups possibles, donc, la machine va explorer, en fait, suite à ce coup-là, différents coups après. Donc il va faire l'hypothèse que okay, si je fais ce coup-là, l'adversaire va jouer celui-là, moi je vais jouer celui-là, et ainsi de suite. Et au bout d'un certain nombre de coups, il va évaluer sa probabilité de gagner à ce niveau-là. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est faire en sorte de gagner la partie. Donc sa récompense, et en fait, il n'aura qu'une récompense à la fin, c'est quand il a gagné la partie ou pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ce qui se passe pour résoudre, apprendre une machine à jouer au Go, c'est qu'on a créé donc, un système qui apprend à jouer un coup et un autre système qui apprend à évaluer la qualité de ce coup-là. Et ensuite, on a fait jouer la machine contre elle-même des millions et des millions de fois. Et en fait, grâce à ces millions et des millions de parties qu'il a pu faire, il a pu distinguer ça c'est un bon coup, ça c'est un meilleur coup, ça c'est un mauvais coup, ça c'est un coup qui va me permettre de gagner. Et grâce à ça, en fait, il a été capable en fait de battre les meilleurs joueurs de Go du monde. Donc ça marche vraiment très bien. La différence qu'il y a entre la machine et l'homme dans ce contexte-là, c'est que donc si on suppose qu'un homme est capable de faire 3 parties par jour, et sur son espèce, si on suppose qu'il joue au Go tous les jours de sa vie, en fait, il va faire en gros 90 000 parties. Une machine, en une journée, il aura fait 1 million de parties. Voire plusieurs millions. Et il peut continuer à s'améliorer pendant plusieurs jours. Donc, effectivement, la machine a été capable de battre l'homme dans ce jeu-là, mais l'homme, sur un nombre très réduit, beaucoup plus réduit de parties, a été capable d'apprendre beaucoup mieux, en tout cas, que la machine. Donc, on a des résultats vraiment relativement intéressants par rapport à ces méthodes d'apprentissage par renforcement, mais il y a quand même encore beaucoup de choses à améliorer, notamment sur la capacité de la machine à apprendre efficacement. Donc voilà, le gros défaut effectivement de ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est qu'il faut beaucoup d'essais-erreurs avant de faire en sorte que la machine soit capable de faire quelque chose. Donc par exemple, ça marche bien pour les jeux, on peut pas faire ça pour apprendre un véhicule autonome à conduire. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de mettre un million de véhicules dans le talus avant de faire en sorte que une seule soit capable de conduire sur une route. Donc voilà. Ça marche pour des choses spécifiques que l'on peut simuler, ça ne marche pas pour des choses que l'on ne peut pas simuler. Voilà, donc voilà les choses sur lesquelles comment on peut apprendre. Je vais aussi revenir sur une nouvelle technologie, donc technologie d'intelligence artificielle qui est très récente, mais qui risque d'avoir des impacts forts dans les prochaines années. Donc en fait, ce qu'on appelle des réseaux génératifs adverses, en fait, c'est juste des techniques qui sont capables de générer des données qui ressemblent à d'autres données. Donc par exemple, on peut créer une machine qui soit capable de générer des visages. Donc quand je dis générer, en fait, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a dessiné derrière et que la machine a mis du couleur dessus. C'est que vraiment, on lui dit, c'est la machine qui lance un dé et à partir du résultat de ce dé-là, génère une image un peu qui ressemble à ça. Et en fait, le principe de ces choses-là, de ce qu'on appelle les GAN, c'est un espèce de police et de voleur. Donc en fait, c'est un jeu à deux joueurs. Il y a la police et il y a un faussaire. Donc le faussaire, c'est la machine qui veut créer une image qui ressemble à tout un tas d'images qu'on lui donne. Donc par exemple, des visages. Donc le principe, c'est que au début, le faussaire, ici, donc en rose, va, étant donné, donc on lui donne des nombres aléatoires, et à partir de ces nombres aléatoires, il va générer quelque chose qui ne ressemble à rien au début. Et on va comparer cette image-là. La police, en fait, le discriminateur aussi, va comparer l'image que la machine a générée avec l'image, le tas d'images qu'il a à sa disposition. Il va lui dire, bah, ça, c'est, ça ne ressemble pas à un vrai billet, par exemple, si c'est en raisonnant en faussaire. Et donc, à partir de là, si le faussaire se fait attraper, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster sa machinerie pour faire en sorte que les billets qu'il fabrique soient un peu plus ressemblants aux vrais billets. Et du coup, le coup d'après, il va présenter un autre billet à la police. La police va prendre un autre billet dans le tas de vrais billets qu'il a, il compare, c'est pas bon, bah, et hop. Donc le faussaire améliore ses techniques et au fur et à mesure de ce jeu à deux là, en fait, le faussaire devient meilleur et est capable d'engendrer des images qui ressemblent aux images réelles qu'on lui propose. Donc par exemple, ici j'ai des images de visage. Alors voilà, dans ce tas d'images de visage, lesquelles d'après vous ont été générées par la machine? Donc il y en a une qui est un peu facile, hein. Peut-être celle-là. Elle a un chapeau un peu bizarre ou une coiffe un peu bizarre. Probablement elle est générée par une machine. Celle-là aussi, elle a un problème de coiffeur, ça, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la coiffure, mais probablement générée par une machine. Voilà, celle-là aussi, le flou ici, elle ne ressemble pas à une vraie image. Bon, en fait, toutes ces images-là ont été générés par des machines. Donc, alors, si on regarde sous subrepticement, on distingue des choses qui sont effectivement bizarres, mais quand on regarde de loin, les images qui sont générées par la machine sont quand même très ressemblants à des visages, en tout cas de personnes. Donc voilà. Donc ça, c'est une technique qui date d'il y a 3-4 ans et qui est vraiment tout nouveau. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, on ne comprend pas encore vraiment complètement comment ça marche en tant que chercheur, mais ce qui émerge aussi de ça, c'est qu'on peut faire de l'algèbre d'images. Donc on peut faire des additions, des opérations rigolos. Par exemple, si on prend un nombre aléatoire qui génère une femme qui est souriante, et si on lui soustrait les nombres aléatoires qui génèrent une femme qui ne sourit pas, et on ajoute les nombres aléatoires d'un homme qui ne sourit pas, ce qu'on obtient, c'est un homme qui sourit. Donc, en gros, il a soustrait la notion de femme, il a gardé le fait que l'on veut l'information sourire, et il a généré un homme souriant. Donc, on a exactement la même chose sur le port de lunettes. Donc, c'est des choses qui sont vraiment intrigantes. À ce stade-là de la recherche, en tout cas, on ne comprend pas vraiment comment ça marche et comment on en arrive là, comment la machine en est arrivée là. Mais en tout cas, c'est des phénomènes qui ont émergé de cette recherche-là. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications. Ce que j'ai vu actuellement, c'est des tentatives de génération de molécules chimiques, en fait, pour créer des nouveaux médicaments à partir de ces techniques-là. Donc c'est pas du tout abouti, hein. Donc c'est vraiment des choses qui datent d'il y a un an ou deux, voire même de cette année, ou des choses qui consistent à générer des images avec des modèles et d'accessoires. Donc à partir d'un modèle de tissu, on peut faire porter à une personne différents types d'habits. Donc vraiment des applications, en tout cas celle-là, relativement mineure. Pour ce qui concerne la molécule chimique, si on aboutit à la découverte de médicaments pertinents, peut-être que ça aura un impact beaucoup plus important. Voilà, donc pour finir cette dernière partie, je vais revenir sur ce que l'on va pouvoir attendre de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Et les questions un peu difficiles derrière tout ça. Donc, ce qui va arriver dans les incessamment sous peu, c'est que notre façon d'interagir avec les machines vont changer. Donc, parce que maintenant, la machine est vraiment capable de bien reconnaître la parole dans des situations même assez complexes, parce qu'elle est capable d'analyser la phrase que l'on prononce. En fait, maintenant, on a des différents assistants personnels, donc Google Home ou des assistants personnels open source. On va avoir des systèmes qui vont interagir, avec qui on va pouvoir interagir. Donc, par exemple, des bots qui, ici, l'exemple que je vous présente ici, c'est un assistant personnel qui vous dirige en fonction donc c'est pour un assistant personnel médical qui vous dirige en fonction des symptômes que vous avez, donc qui préfiltre en fait les patients. Et ou alors on va avoir des assistants personnels très évolués aussi. Alors je sais pas si vous avez lu Le Monde aujourd'hui, mais Le Monde en a parlé aujourd'hui. On a cet exemple-là. Donc, en fait, comment ça marche ? C'est un assistant personnel qui... Ah, dommage. Je ne sais pas si vous allez avoir le son. Non, dommage. Donc, en fait, c'est un assistant personnel qui a... Attendez.
Tant pis.
Donc en fait, c'est un assistant personnel qui passe un coup de téléphone à un restaurant pour réserver en fait une table pour un certain nombre de personnes. Et donc ce qui est à la fois intéressant et un peu effrayant, c'est que en fait la synthèse de la parole est tellement bonne. Et en plus, ils ont rajouté des mimiques, des tics de parole qui fait que l'interlocuteur donc de l'autre côté, n'est pas capable de distinguer si c'est une machine qui parle ou un robot. Mais voilà, donc dans ce contexte-là d'une situation relativement fermée, donc la réservation d'une table dans un restaurant, l'assistant personnel, en tout cas, est capable de comprendre les échanges et la conversation et de mener une conversation en fait avec une personne. Les autres impacts, enfin, un autre impact important, ça va être aussi sur le niveau de la santé. Donc, on va avoir pas mal a priori, pas mal de traitements personnalisés avec l'analyse des données, des images médicales ou les données génomiques ou les données patients. Mais surtout sur la qualité des diagnostics sur les images médicales. Donc là, encore, je reviens sur un autre type de diagnostic à partir d'images médicales. C'est l'exemple de la rétinopathie diabétique. En fait, c'est avec l'accroissement du diabète, il y a de plus en plus de patients qui sont à risque d'aveuglement et c'est un problème qui est difficile à diagnostiquer. Donc, par exemple, si on donne à deux médecins différents, deux ophtalmologistes différents, la même image, en fait, ils vont être d'accord sur leur diagnostic simplement dans 60% des cas. Et si on donne à un ophtalmo une image et on la lui redonne la même quelques heures plus tard, en fait, il va être d'accord avec lui-même dans 75% des cas. Donc, il y a des choses à améliorer, en tout cas, en aide au diagnostic. Donc, là, actuellement, donc l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle, toujours basées sur un gros volume d'images analysées. Donc là, en gros, 200 000 images de fond de l'œil qui ont été analysées et qui ont été labellisées par 5 ou 6 ophtalmos. Donc la machine, actuellement, donc la machine qui a appris à reconnaître cette pathologie-là, fait aussi bien que la moyenne de la décision de 8 ophtalmologistes différents. Donc on a quelque chose qui est relativement fiable et qui marche bien. Voilà, donc les choses que l'on attend et qui sont déjà en fait en cours, c'est effectivement les véhicules intelligents. Donc ces techniques-là sont déjà en déploiement sur les Tesla. Je pense que tous les grands constructeurs travaillent sur ce sujet-là et je pense qu'on aura ça en standard dans tous les véhicules dans les 5 à 10 ans à venir. Donc donc comme je vous ai dit, à Rouen, on est innovant sur le sujet puisqu'il va y avoir un véhicule autonome qui va circuler au Madrier entre le métro, la station métro Technopôle et le Zénith. Voilà. Donc, une autre impact que l'on n'attend pas nécessairement, c'est l'aide à la créativité. En fait, dans la réunion des informaticiens des années 50, en fait, l'une des questions qui a émergé, c'est comment faire en sorte qu'une machine soit créative. Donc, on n'a pas vraiment de réponse encore par rapport à ça, mais on peut, en tout cas, aider. La machine peut aider une personne à être créative. Donc, par exemple, les choses qui sont un peu rigolos par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir on peut créer des styles de tableau à partir d'une image quelconque. Donc voilà, ici je crois que c'est le style du cri de mouche, c'est un Van Gogh. Donc vous avez créé un nouveau Van Gogh à partir de cette image d'une ville. Donc vous avez combiner en fait cette image-là et le style Van Gogh pour créer une nouvelle image. Donc voilà, donc ce qu'on appelle du transfert de style. Il y a des choses qui sont de plus. Probablement, oui, oui. Apprendre. Mais le problème, c'est qu'on a appris. Probablement, c'est qu'on n'aura pas assez suffisamment de Van Gogh pour apprendre une machine à connaître des Van Gogh. Les stocks est un peu limités, voilà. Bon, après, il y a aussi des logiciels qui font de l'aide à la composition musicale. Je crois qu'il y a des albums qui sont sortis où la musique a été composée par une machine et je crois qu'il n'y a que la musique qui a été composée par une machine, mais la voix était une vraie personne. Voilà, donc des choses qui aident en fait à être créatif. Voilà donc les impacts potentiels qu'on peut attendre. Pour finir, donc les questions un peu critiques sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc ce qu'on a dit jusqu'à là, c'est que en fait la machine, elle va apprendre à partir de données. Et en fait, ce qu'on va apprendre à une machine, en fait, si on veut faire en sorte qu'une machine soit capable de répondre à une question, donc s'il y a un chat ou un chien dans une image. En fait, donc c'est la question qui nous intéresse, et en fait, on va lui donner des données pour qu'il soit capable de répondre à cette question-là. Et en fait, la machine, en soi, elle est neutre. Ce qu'elle va être capable d'apprendre, c'est les informations qu'il y a à l'intérieur des données que vous lui donnez, que vous lui fournissez. Donc, si, par exemple, dans ce problème d'apprentissage, de reconnaître des chiens et des chats, vous avez des informations dans vos données qui est plus facile que dire un chat, c'est l'animal qui a des oreilles pointues et des moustaches horizontales, eh bien, la machine va apprendre à distinguer plutôt cette caractéristique qui est facile à reconnaître pour distinguer un chat d'un chien. Donc, typiquement, dans cet exemple-là, si vous lui dites que les chiens, c'est ces animaux-là, et les chats, ces images-là. En fait, la machine n'a aucun intérêt à essayer de distinguer ces images-là de ces images-là d'une autre manière que par la couleur. Parce que la couleur permet déjà de distinguer les chiens des chats ici. Donc la machine, en fait, n'a aucun intérêt. C'est beaucoup plus facile pour lui de dire, bah, étant donné la couleur, ça, c'est un chien, et ça, c'est un chat. Et elle n'a aucun intérêt à essayer de trouver quelque chose, une information beaucoup plus valide. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand on va lui présenter une image ici d'un chien blanc, parce que ce qu'il a appris, c'est que cette chose-là qui s'appelle un chien, c'est censé être noir, bah lui, il dit, bah ça, c'est un chat. Parce que les données sur lesquelles il a été entraîné, en fait, est biaisé par rapport à la question qu'on lui a posée. Donc, tant que ça reste dans des problèmes de reconnaissance de chiens et de chats, ça reste assez inoffensif. Mais quand votre algorithme, votre méthode de machine learning est utilisée pour prendre des décisions qui impactent la vie des gens. Donc, par exemple, si les banques utilisent un algorithme, une méthode de machine learning pour décider s'il faut octroyer un prêt ou pas à une personne, il faut que les données soient vraiment bien construites, idéalement open source, c'est-à-dire accessible par n'importe quel citoyen qui aimerait vérifier sur quoi la machine a appris, pour que les choses tournent bien. Parce que du coup, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec des méthodes d'apprentissage machine. Donc par exemple, il y a des chercheurs de l'université de Stanford, donc quand même qui est une grande université, qui ont publié, ça veut dire qu'il y a des collègues qui ont relu l'article et qui ont accepté l'article, sur des choses qui disent on est capable de prédire l'orientation sexuelle d'une personne à partir de son visage. Ou alors, on est capable de dire une personne va commettre un crime à partir du visage. Et en fait, donc, il y a eu un tollé hein, dans la communauté par rapport à ces articles-là, et d'autres personnes d'autres chercheurs ont analysé les données qui ont été utilisées pour produire ces recherches-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, étant donné les données qui ont été utilisées par la machine pour apprendre, il y avait des signaux faibles pour distinguer l'orientation sexuelle des personnes, mais ce n'était pas le visage, c'était d'autres informations. Voilà. Ces questions-là de quelles sont les données qui ont été utilisées pour faire apprendre une machine sont des questions qui sont importantes. Et il faut faire, à mon avis, il faut faire quand même très attention à ça et à ne pas utiliser des méthodes de machine learning pour répondre à des questions, à certains types de questions. Donc, peut-être qu'en France, ça se fait moins, mais aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de questions des méthodes de machine learning sont utilisées pour pas mal de choses, par exemple, pour estimer la probabilité de récidive d'un criminel. Et en fait, les données qu'ils ont utilisées pour apprendre des machines à faire ça étaient biaisées, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des données qui ne permettent pas de répondre à la question, mais du coup, la machine avait tendance à donner des probabilités beaucoup plus fortes aux personnes de couleur noire qu'aux personnes de couleur blanche sur la récidive, parce que les données n'étaient pas bonnes pour répondre à la question, en fait. Donc, c'est des choses qui sont importantes, vraiment, et auxquelles il faut faire attention. Voilà, donc, et outre ces problématiques, il y a d'autres choses qui apparaissent dans un problème de biais. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a deux ou trois ans, il y a eu des problèmes Google a eu des problèmes parce que ils ont tagué des photos de personnes noires comme étant des gorilles parce que leur base de données n'était pas suffisamment riche pour expliquer la diversité. Ou alors, on a des biais de genre. Toujours chez Google, hein, c'est-à-dire bon, là en turc, si j'ai bien compris, hein, le turc c'est une langue non genrée, donc on peut dire il est infirmier, il est docteur. Donc là en français il y a le il et elle, donc c'est un peu compliqué, mais le turc n'est pas genré. Et quand on demande à faire une traduction du turc en anglais, eh bien l'infirmier devient une infirmière et le docteur devient un docteur. Donc voilà, donc il y a une perpétuation du biais de genre en fait, qui est inhérente aux données. C'est-à-dire que dans les données que l'on utilise, donc parce que les données que l'on utilise, donc qui sont utilisées par la machine, et les données que l'on produit, la notion d'infirmier est beaucoup plus souvent associée au féminin qu'au masculin. La notion de docteur est beaucoup plus souvent associée au masculin. Eh bien, la machine, en fait, reproduit ces mêmes biais. Donc, il y a beaucoup de travaux encore à faire pour faire en sorte que ce biais-là, que les machines ne reproduisent pas ces biais-là qui sont, en fait, inhérentes à ce que nous, on produit. Voilà. Et donc, ça, c'est les biais. Il y a la notion maintenant de fake news, dont on entend parler pas mal, et la capacité des algorithmes de machine learning à produire des images qui sont ressemblantes aux vraies images et à produire aussi des voix qui sont vraiment ressemblantes à des vraies voix pose des questions majeures sur la véracité des informations que l'on va avoir maintenant à notre disposition sur Internet. Donc il va falloir avoir un sens critique très fort pour pouvoir analyser en fait ce que l'on va voir dans les prochaines années sur les informations qu'on va voir apparaître. Donc il faut apprendre à vérifier ses sources et à bien regarder ce qui se passe avant de croire tout ce que l'on va voir sur Internet, parce qu'il y a des la, la, Là, les images que je présente, donc c'est un vrai Nicolas Cage et un faux Nicolas Cage. Là, on distingue encore clairement qu'il y a le vrai et le faux. Mais j'imagine que dans les prochaines années, la qualité de la reproduction va s'améliorer. On va avoir du mal à distinguer, on va avoir un peu plus de mal à distinguer du vrai ou du faux. Et pareil pour les voix. Du coup, ce qui à la fois ce qui se passe, c'est que du coup, on essaie de créer des méthodes d'intelligence artificielle qui soient capables de détecter, reconnaître des images produites par l'intelligence artificielle. Enfin, il commence à avoir un non-sens un peu rigolo qui apparaît, quoi. Mais voilà. Voilà. Et bon, pour finir sur les notions de données et de vie privée, donc quand vous allez interagir de plus en plus fréquemment, éventuellement avec vos assistants personnels, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez lui fournir de plus en plus d'informations. Donc, si vous lui demandez quelle heure et quel est le temps qu'il va faire à Marseille, peut-être que la machine va comprendre que d'ici quelques jours, vous allez aller à Marseille. Ou si vous lui demandez quel est le diagnostic de la varicelle, bah, il va comprendre que dans votre famille, il y a peut-être quelqu'un qui a la varicelle. Donc, au fur et à mesure, à force d'interagir, en fait, il sait de plus en plus de choses sur vous. Donc, et ces données-là sont utilisées pour notamment des systèmes de recommandation. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, on va interagir avec les machines, il va y avoir des échanges d'informations, donc des échanges d'informations privées. Que l'on veut éventuellement ne pas partager. Donc, il y a la recherche qui essaye de travailler sur cet aspect-là en faisant en sorte d'apprendre sur des données cryptées, donc anonymisées, donc faire en sorte que vos données ne soient pas compréhensibles avec son cryptée, ou alors faire en sorte que vos données ne partent pas chez Google ou chez Amazon à chaque fois que vous interagissez avec une machine, mais que reste à votre domicile ou sur votre machine personnelle. Voilà, donc il y a des travaux de recherche qui s'intéressent à ça. Sinon, il y a aussi des alternatives qui sont beaucoup plus respectueuses de la vie privée, peut-être que les machines que proposées par les grands groupes industriels, donc qui sont open source et qui sont respectueux de la vie privée. Sinon, donc je ne sais pas, il y a des lois qui vont se mettre en action incessamment sous peu qui donnent un contrôle beaucoup plus important à l'utilisateur. Donc à vous, à nous sur nos données et sur le droit à l'oubli sur les données. Donc voilà, il faut rester un peu vigilant un peu sur ces questions-là. Voilà, donc pour finir, donc voilà, on est quand même dans une révolution industrielle qui est en cours, hein. Il y a beaucoup d'impact à venir, notamment sur notre façon d'interagir avec les machines. Donc ce qu'on attend essentiellement, c'est plutôt une collaboration entre les hommes et la machine. Et voilà, donc ce que je dis ici pour finir, hein, c'est que qu'il y a des fausses craintes actuellement. Je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des machines qui sont beaucoup plus intelligentes, en tout cas de l'intelligence artificielle générale, qui sont capables d'agir comme un terminateur. En fait, une intelligence artificielle, tout ce qu'il cherche à faire, c'est optimiser sa récompense. Donc, tant que sa récompense est bien définie et clairement définie, elle n'a pas vraiment, elle n'a aucun intérêt à essayer de voir ailleurs. Et même si on essaie, si certains chercheurs cherchent à modéliser la notion de curiosité, on est vraiment encore loin d'aboutir à des solutions qui sont satisfaisantes. Donc, pour moi, c'est vraiment des questions qui, c'est des fausses craintes. Que la question de machine supérieure à l'homme. Peut-être qu'il y a des questions, des vraies questions qui sont beaucoup plus importantes, qui sont celles dont je vais parler sur les données, les biais, l'utilisation d'algorithmes simples même, mais pour qui impactent sur la vie des gens. Voilà, donc, et pour finir, donc, je vais vous présenter, voilà, je vais pouvoir répondre à vos questions et voilà, on a créé un nouveau monnaie avec la ville de Rouen, donc avec même le sixième pont qui est derrière. Donc, Donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre.